الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 13 من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 20 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes la date d'aujourd'hui, le 9 août 2014. Et aujourd'hui, nous allons entrer, inshallah ta'ala, dans le 20e cours, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, nous avons parlé de deux expéditions. Une dans laquelle le prophète alayhi salatu wa salam a participé, et une autre qui est une mission dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les sahaba radiyallahu anhum appeler des gens à l'islam. Quant à la première, elle est venue tout de suite après la bataille de Uhud, d'ailleurs le lendemain, le dimanche. La bataille de Uhud a eu lieu au cours du mois de Shawwal, en l'an 3 de la Hijra, un samedi. Suite à cette bataille, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ou a accompagné des hommes dans le but de terrifier l'ennemi et de lui montrer que malgré la difficulté et la lourdeur du combat de la veille, les musulmans sont toujours dans la capacité de se tenir prêts à affronter l'ennemi. Et cette mission fut réussie par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car les ennemis d'Allah, à la tête desquels Abu Sufyan, qui après va devenir musulman, radiyallahu anhu, mais qui pendant que l'on parle est encore kafir, avait pour ambition de revenir à Médine afin d'attaquer les musulmans, car ils les pensaient affaiblis. Et ils n'ont pas réussi. Au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans leur cœur la peur et ils ont fait demi-tour. Ils sont rentrés à Mecca. Et en route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé, comme on l'a dit, Muawiyah ibn al-Mughira ibn Abi al-As. Et c'est cet homme qui a défiguré Hamza radiyallahu anhu, donc le paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il fut mort. Celui qui a assassiné Hamza, c'est Wahshi, qui est après devenu musulman. Et quant à lui, Muawiyah ibn al-Mughira, il est passé devant le corps de Hamza étant défunt, radiyallahu anhu, et il s'est amusé à le défigurer. Eh bien, au cours de cette expédition, les compagnons qui marchaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont découvert cet homme-là, Muawiyah, qui se reposait au pied d'un arbre et qui était endormi. Ils l'ont donc attrapé, puis ils l'ont attaché, puis ils lui ont tranché la gorge. Ensuite, après cette bataille, il y a eu la mission de Radi', celle dans laquelle des hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui demander qu'il leur envoie des hommes pour leur enseigner l'islam. Et en fait, c'était une trahison de leur part, car ce qu'ils voulaient, c'était semer un piège aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est basé sur ce qu'il voyait de ces gens-là. Ce qu'il voyait, c'était une demande d'enseignement des bases de l'islam. Il a donc décidé d'envoyer 10 personnes, alayhi salatu wa salam, à la tête desquelles Thabit ibn Asim Al-Ansari, radiyallahu anhu, quand ces 10 personnes sont arrivées à l'endroit prévu, ils ont été pris au piège et ils ont été assassinés. Wal-iyadhu billah. Et donc, ce fut une perte pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il restait deux hommes, Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dathin, radiyallahu anhuma. Khubayb ibn Adi a subi des tortures, des châtiments terribles, et après lesquels il a été tué, radiyallahu anhu. Zayd ibn Dathin a été vendu et il a été acheté par Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya est un mécréant de Quraysh qui a acheté ce captif musulman afin de l'assassiner pour se venger de la mort de son père qui a été tué dans une bataille auparavant. Son père, c'est Umayya ibn Khalaf, celui qui a été tué par les sahaba radiyallahu anhu ou anhum lors de la bataille de Badr. Puis cet homme-là, Safwan ibn Umayya, qui a acheté le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Dathin radiyallahu anhu, puis qu'il l'a assassiné pour se venger de la mort de son père, s'est converti à l'islam par la suite et il est devenu musulman. Et en étudiant la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que beaucoup de ces gens qui au début étaient des ennemis de l'islam sont devenus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah attire l'attention sur celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que lorsqu'ils lisent une information dans laquelle un compagnon est assassiné par quelqu'un, qu'il ne s'empresse pas tout de suite d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala contre l'assassin avant d'avoir étudié la sira, afin de voir, car peut-être que par la suite il est devenu musulman et Allah azza wa jalla a agréé son repentir. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وفي صفر في صفر هذا كان بعث بئر معونة وذلك أن براء أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد أي لم يقبل الإسلام ولكن لم يستكبر ولم يبعد فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد لأن في نجد كان يوجد بعض أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو براء أنا جار لهم أي أنا أقوم بكفالتهم أو نعم أحافظ عليهم أنا جار لهم فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحابه وفي الصحيحين 70 رجلا وهذا هو الصحيح وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت أي المسرع ليموت أي أنه في القتال يسرع يريد أن يموت في سبيل الله شهيدا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم والقراء هم أهل العلم يقرؤون القرآن ويفهمون معاني الآيات قال فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة ابن سليم ثم بعثوا منها حرام ابن ملحان أخا سليم أخا أم سليم فهو خال لأنس بن مالك رضي الله عنه لأن أم سليم والدة أنس فبعثوا هذا الرجل رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن طفيل فلم ينظر فيه لم يلتفت إلى الكتابة ولم يقرأ ما فيها وأمر به فقتله أي قتل الرجل الذي جاء بالكتابة ضربه رجل بحربة فلما خرج الدم قال أي قال المقتول قبل أن يموت فزت ورب الكعبة سبحان الله وهذا جاء في البخاري أنه قال الله أكبر فزت ورب الكعبة Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, passe à un autre chapitre et dit « Au cours du même mois de Safar, c'est-à-dire le mois au cours duquel a eu lieu la mission de Raji' dont on vient de parler, au cours du même mois de Safar, d'autres musulmans furent envoyés en mission par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cette fois à Bi'r Ma'ouna. Ces musulmans ont été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de prêcher à l'islam et d'enseigner ses bases et ses fondements aux gens vers lesquels ils ont été envoyés. En effet, Abu Bara Amir ibn Malik, surnommé Al-Mula'ib al-Asinna, arriva à Médine. Mula'ib al-Asinna, c'est un surnom qu'on lui a donné et la traduction de ces deux mots, on pourrait dire que c'est celui qui joue avec les flèches. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme ça? Car lorsqu'il était au combat, il était brave et redoutable, il ne craignait rien, à un point où on avait l'impression qu'il jouait avec les flèches que les ennemis lui lançaient. C'est pour ça qu'il a été appelé Mula'ib al-Asin, celui qui jouait avec les flèches, pour montrer qu'il était brave et qu'il n'avait peur de rien lorsqu'il rencontrait l'ennemi. Cet homme-là, surnommé Mula'ib al-Asinna, al-Asinna hiya al-Rimah, arriva à Médine et se présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'appela à embrasser l'islam. Cet homme arrive à Médine. Il n'est pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invite à l'islam. Mais lui n'accepte pas, sans pour autant se faire ennemi des musulmans. C'est pourquoi l'auteur dit « Sans pour autant se convertir, Abu Bara se déclara proche de l'islam. Il n'était donc pas musulman, mais il n'était pas quelqu'un dont on craignait les nuisances. Il dit « Ô messager d'Allah, pourquoi ne pas envoyer certains de tes compagnons afin d'appeler les habitants du Najd à ta religion ?» Najd, c'est le nom d'une région dans laquelle se trouve actuellement la ville de Riyad, en Arabie. Et la région où se trouvent la Mecque et Médine s'appelle Al-Hijaz. Pourquoi ne pas envoyer certains de tes compagnons afin d'appeler les habitants du Najd à ta religion? Car j'ai bon espoir qu'ils répondent à leur appel. Et ici, on voit que cet homme-là, malgré le fait qu'il n'accepte pas l'islam, ne se fait pas ennemi des musulmans. À l'image d'une personne à qui on proposerait quelque chose, cette personne ne l'accepte pas, mais sait que cette chose est bonne. Et elle te dit, va la proposer à telle personne, je pense qu'ils l'accepteront. C'est ainsi qu'a agi cet homme-là. Il a donc dirigé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers les gens de la région du Najd. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, je crains que les gens du Najd ne leur fassent du mal. Pourquoi? Car dans cette région, celle du Najd, se trouvent des hommes qui font partie des plus grands ennemis de l'islam, parmi lesquels Abu Amir al-Tufayl. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, craint pour ses compagnons. Abu Bara s'engagea alors et dit « Je me charge de leur protection ». Et chez les Arabes de l'époque, lorsque un homme qui était connu dans la tribu se chargeait de protéger quelqu'un et se portait garant d'une personne, il respectait sa parole et les gens ne le touchaient pas du fait qu'il avait comme protecteur telle et telle personne qui est connue dans la tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya donc aux gens du Najd 40 de ses compagnons selon Ibn Ishaq. Ibn Ishaq est un grand historien qui a écrit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam un livre qui est une référence dans ce domaine, où 70, comme le rapportent Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique, cette version étant la version correcte. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 70 hommes qui étaient tous connaisseurs du Coran, qui en connaissaient l'essence et qui le récitaient, qui étaient pieux et méritaient, et les a envoyés vers la région du Najd afin d'inviter les gens à l'islam. Et ça, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Et c'est une version authentique. Il plaça à leur tête Al-Mundhir ibn Amr de la tribu des Banu Sa'ida, surnommé celui qui s'empresse vers la mort. Et on a déjà parlé de lui dans la bataille de Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé la façon de rencontrer l'ennemi et a ordonné les troupes et a commencé à les répartir. Il a mis un groupe à droite, à la tête duquel Khalid ibn al-Walid, et un groupe à gauche, à la tête duquel cet homme-là, Al-Mundhir, radiyallahu anhu, qui a été surnommé ainsi, Al-Mu'niqu li-Yamut, c'est-à-dire celui qui s'empresse vers la mort. Pourquoi ? Car il recherchait le martyr au combat. Et il s'empressait d'aller affronter l'ennemi en espérant tomber dans le chemin du secours de la religion d'Allah Azza wa Jal et d'être donc ressuscité, récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ses compagnons faisaient partie des musulmans les plus nobles et les mieux instruits. Et ici, on voit et on apprend une chose très importante. Ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui sont allés appeler les gens à l'islam, ceux qui sont allés inviter les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'étaient pas n'importe qui parmi les gens, mais ils étaient des gens les plus nobles et les mieux instruits. Et c'est ainsi que le prêcheur doit être. Il doit être instruit, non pas comme le font beaucoup de ces groupes qui se sont éloignés du chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où l'un d'entre eux dit à un de ses partisans, lève-toi et parle, et Allah tabaraka wa ta'ala va t'inspirer, et alors tu sauras parler. Et on voit l'un d'entre eux se lever devant une masse de gens ou un groupe de personnes, il parle dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il n'est pas instruit, alors que lui-même ne sait peut-être pas accomplir correctement ses ablutions, alors qu'il ne sait peut-être pas corriger sa prière, peut-être qu'il ne fait pas la différence entre le shirk akbar et le shirk asrar, le polythéisme majeur et mineur, dans le fait de jurer par un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Peut-être qu'il ne connaît pas le jugement de telle et telle chose qui sont essentielles et qui font partie des fondements du dîn. Peut-être qu'il ne sait même pas enseigner la ilaha illallah et son sens. Peut-être qu'il ne sait même pas enseigner la sunna, mettre en garde contre les innovations. Et voici qu'il se lève, malgré son manque considérable de connaissances, et il se met à aborder des sujets religieux alors qu'il ne sait absolument pas de quoi il parle. Résultat, sans le moindre doute, il va dire beaucoup plus de mal que de bien. En pensant faire le bien, il sera donc égaré et égareur. Et ce n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni celle des pieux prédécesseurs, qui eux ne parlaient dans la religion d'Allah qu'après s'être instruits. Car ils savaient que être instruit dans la religion d'Allah azza wa jal est essentiel pour appeler Allah. Allah azza wa jal n'a-t-il pas dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dit, ceci est ma voix, j'invite à Allah, c'est-à-dire je prêche et j'appelle les gens à l'islam, j'invite à Allah, je ne les appelle pas à ma personne, je ne les appelle pas à mon idéologie qui contredit la sunna, je les invite à Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira, avec clairvoyance, ana, moi, wa mani taba'ani, et ceux qui me suivent. Donc voici la voix de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils invitent à Allah azza wa jal avec clairvoyance. Ils n'invoquent pas de règles qui n'ont aucun fondement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne disent pas qu'il faut sortir 40 jours ou qu'il faut sortir 4 mois. Ils ne disent pas qu'il faut aller en Inde 4 mois et qu'il faut aller dans tel et tel endroit pendant tant de temps. Car tout cela n'est ni dans le Coran ni dans la sunna, et ce n'est pas accepté. Et si l'un d'entre eux écoute ces paroles, il est bon pour lui de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la voie de la sunna et des pieux prédécesseurs, car c'est dans cette voie qu'il y aura pour lui la réussite et qu'il y aura pour lui la baraka. Et il n'y a pas meilleur conseil que celui-ci, celui d'orienter les gens vers le haqq, même s'ils sont attachés, même s'ils sont attachés depuis de nombreuses années en raison du lieu où ils ont grandi ou des gens qu'ils fréquentent à des choses qui ne sont pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. Allah azza wa jalla a dit dans ce noble verset ce qui veut dire: et qui a une meilleure parole que celui qui invite à Allah, qui invite à Allah, qui fait de bonnes actions et dit « Je fais partie des soumis ». Et d'autres groupes également prêchent au faux et ils se taisent sur ce qui est mauvais. Ils ne mettent pas en garde les musulmans contre ce qui est mauvais pour eux, contre ce qui va leur être nuisible dans leur vie d'ici-bas. Et le jour, ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vrai prêcheur est celui qui est d'abord instruit. Ensuite, il invite les gens à Allah, il n'invite pas les gens à sa personne. Il n'invite pas les gens à une idéologie, à une façon de voir les choses dans la religion qui est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dépit de l'aversion de quiconque parmi les gens, la vérité doit être dite. Donc c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons faisaient partie des musulmans les plus nobles et les plus instruits. Ils n'étaient donc pas ignorants. Ils ne parlaient pas dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans connaître. Et ils n'appelaient surtout pas les gens à innover comme font ces gens. Après s'être mis en route, ils firent halte à Bi'r Ma'ouna. Bi'r Ma'ouna, c'est un puits. Car souvent, les compagnons, radiyallahu anhum, faisaient halte à des points d'eau. Ils s'arrêtaient à des endroits stratégiques. Ici, ils faisaient halte à ce puits qui est connu sous le nom de Bi'r Ma'ouna, situé entre les terres des Bani Amir et celles des Bani Sulaym. Ce sont deux noms de deux tribus. De là, ils envoyèrent Haram ibn Milhan, le frère de Umm Sulaym. Umm Sulaym, c'est la mère du noble compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, qui a vécu 10 ans chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son frère, Haram ibn Milhan, faisait partie de ces 70 hommes envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit Bi'r Ma'ouna afin d'appeler les gens de la région du Najd à l'islam. Ils ont donc fait halte à cet endroit, puis de cet endroit, ils ont envoyé cet homme, l'oncle de Anas, radiyallahu anhu, porteur d'un message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Amir ibn Tufayl, l'ennemi d'Allah. Et dans ce message, il y avait une invitation à l'islam et à suivre le chemin d'Allah azza wa jal. Mais ce dernier, ne prenant même pas le temps de lire le message, ordonna qu'il soit tué. Regardez l'orgueil des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme arrive avec un courrier de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ne prend même pas la peine de lire cette lettre. Il donne l'ordre à un de ses suiveurs d'exécuter le porteur de ce message, l'oncle de Anas, radiyallahu anhu. Et l'homme est arrivé par derrière et lui a asséné un coup fatal qui a causé sa mort. L'un de ces hommes lui porta alors un coup de lance. Voyant le sang couler, il s'exclama, c'est-à-dire Haram ibn Milhan, radiyallahu anhu, a vu son sang couler. Il s'exclama. Est-ce qu'il a levé sa voix pour se plaindre? Est-ce qu'il a levé sa voix pour montrer combien il est triste de mourir? Regardez ce qu'il dit. Il dit, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. Et cette histoire, elle est rapportée par Al-Bukhari. Exactement, il a dit, Allahu Akbar, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. Et on s'arrête ici. Celui qui lui a asséné le coup et qui l'a tué s'appelle Jabbar ibn Salma. Jabbar ibn Salma, huwa alladhi qatala Haram ibn Milhan. C'est lui qui a assassiné le porteur du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabbar ibn Salma, l'assassin, voit sa victime s'exclamer et dire « Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. » Cette phrase est restée dans son esprit. Et il a dit « Kayfa faz wa qad qataltu ?» Comment a-t-il pu gagner alors que je l'ai éliminé, je l'ai exécuté? Il est retourné chez les siens et il leur a dit « Lorsque j'ai asséné le coup fatal à cet homme, il s'est écrit juste avant de mourir en disant « Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. » De quoi est-ce qu'il parle alors que je lui ai ôté la vie et qu'il n'est plus vivant? Il n'a pas réussi, au contraire. Les hommes lui ont dit « Il a réussi parce qu'il est mort en martyr. » Et c'est de ça qu'il parlait quand il a dit qu'il a réussi. Il est mort pour Allah, pour secourir la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors il a réfléchi et il a dit « Qad faza wa rabbi al-Ka'ba. » Il a dit par le Seigneur de la Kaaba, il a vraiment réussi et son propre meurtre a été la cause, c'est-à-dire son crime qu'il a commis a été la cause de sa conversion à l'islam. Car cette phrase que cet homme-là a laissée juste avant de mourir lui a travaillé l'esprit. Et il s'est dit que ces gens-là meurent pour défendre la religion d'Allah. Et quand ils sont amenés à mourir, ils sont heureux. Et ça a provoqué sa conversion à l'islam. Donc encore une fois, voyez que des fois, des gens tuent des compagnons et après font partie des compagnons. Des fois, ils font même partie des meilleurs des compagnons. Radiyallahu anis sahabati ajma'in. En ce qui concerne ces gens, les lecteurs du Coran, ces gens instruits envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radiyallahu an, dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah, les a décrits et a dit: kunna nusammihim al-qurra fi zamanina. Ces gens-là, on les appelait les lecteurs à notre époque. Et les lecteurs, ce qui est voulu par al-Qari, non pas à cette époque mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par Al-Qari et le pluriel Al-Qurra, ce sont ceux qui non seulement connaissent le Coran, qui savent le réciter, mais aussi en comprennent l'essence. Ils sont donc ceux qui ont la science, qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Et vers la fin des temps, et nous y sommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes de la fin des temps, il y aura beaucoup de qurra, beaucoup de récitateurs du Coran et peu de savants. Alors qu'à l'époque, les qurra étaient les savants, les lecteurs du Coran étaient les savants. Mais à notre époque, il y a énormément de récitateurs, mais il y a très peu de savants. On peut même trouver des gens qui connaissent le Coran et qui le mémorisent du début jusqu'à sa fin, sans connaître le sens. Certaines personnes qui ne parlent même pas l'arabe maîtrisent le Coran dans sa récitation et sa mémorisation, et cela fait partie de la fin des temps. Car le but du Coran n'est autre que sa compréhension et sa mise en pratique. Mais aujourd'hui, on a pris le Coran comme une mode. On l'apprend, on le récite et on ne se réforme pas, on ne se corrige pas. Alors que eux apprenaient le Coran et le mettaient en pratique. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit, voyant le sang couler, il s'exclama, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. Amir réclama alors l'aide des Bani Amir afin d'aller combattre le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pour résumer, les 70 hommes sont arrivés à appeler les gens à l'islam, ils ont fait halte au puits de Ma'ouna, ils ont envoyé l'oncle de Anas, porteur d'un message de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les appeler à l'islam. Amir ibn Tufayl a déchiré ou n'a même pas pris la peine de lire ce message et a ordonné que le porteur du message soit exécuté. Puis, il a appelé une tribu pour leur demander de l'aide afin d'exécuter les 69 qui sont à Bir Ma'ouna. Mais ils refusèrent de lui prêter assistance compte tenu de la protection qu'Abu Bara s'était engagé à leur assurer. Souvenez-vous qu'Abu Bara, celui qui a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller inviter les gens à l'islam dans cette région du Najd, s'est porté garant et a dit « Ils sont sous ma protection ». Et à cause de cette protection dont il s'est porté garant, ils ont refusé de répondre à la demande de Amr ibn Tufayl qui leur a fait cet appel pour les tuer. Il se tourna alors vers les Bani Sulaym, dont trois clans acceptèrent de lui prêter assistance. قال رحمه الله واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني نجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. Il se tourna alors vers les Bani Sulaym, dont trois clans acceptèrent de lui prêter assistance. Ces trois clans ont défié la protection de Abu Bara. Ces trois clans sont Usayya, Ri'l et Dakwan. Ils encerclèrent les compagnons qui luttèrent jusqu'à la mort, qu'Allah les agrée. Seul survécut parmi eux Ka'b ibn Zayd du clan des Bani Najjar, une tribu de Médine, qui fut retrouvé en vie mais grièvement blessé parmi les morts. Il vécut jusqu'à l'expédition de la tranchée, celle qu'on va voir dans pas longtemps, Inch'Allah, au cours de laquelle il mourut. C'est-à-dire que dans les 70 personnes envoyées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 69 ont été exécutés. 69 parmi les ulama, ils étaient tous des savants de l'islam. Ils ont été exécutés les uns après les autres. Et le seul qui restait était grièvement blessé et il n'a pas succombé à ses blessures, mais il est mort dans la bataille du fossé, celle qu'on va voir, inshallah ta'ala. Imaginez-vous combien est grande la calamité qui s'est abattue sur les musulmans qui viennent de perdre 70 savants. Et certes, la perte d'un seul savant parmi les savants de l'islam est une brèche qui ne se refermera jamais. Car le savant, pour la communauté, est à l'image de celui qui a une torche dans la main. Il vient dans un endroit obscur et il y a une grande foule de gens qui ne savent pas où aller. Est-ce qu'ils doivent avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, car il fait noir, tout est obscur. C'est alors qu'un homme arrive avec une torche éclairée. Il connaît pour eux le chemin à suivre et il leur dit: suivez-moi, je vous montre le chemin à suivre. Et ces gens le suivent, car il est la cause de leur secours. Et au moment où ils meurent, la torche tombe, elle s'éteint et ils sont perdus. C'est comme ça qu'a été donnée l'image du savant par le savant, l'imam Abul Hussein al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, dans son livre Akhlaq al-Ulama, le comportement des savants, qui a été commenté par le Cheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin, hafidhahum Allah ta'ala. Le savant a une grande place dans la communauté. Et le savant dont on parle n'est autre que le savant de la sunna, non pas les égarés égareurs. Imaginez-vous que les compagnons viennent de perdre 70 ulama. Il n'y a pas une calamité plus grande que celle-ci. Qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite ? Wa kana Amr ibn Umayya al-Damri wal-Mundhir ibn Muhammad ibn Uqba fi sarh al-Muslimin. فرأي الطائرة تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عَرَّقَبَةٍ كَانَتْ عَلَى أُمِّهِ. Ibn Kathir rahimahullah continue et dit: il vécut jusqu'à l'expédition de la tranchée au cours de laquelle il mourut. Deux compagnons, Amr ibn Umayya al-Damri et al-Mundhir ibn Muhammad ibn Uqba, surveillaient alors les troupeaux des musulmans. Voyant des oiseaux survoler le lieu des combats, al-Mundhir Ibn Muhammad se précipita et combattit les polythéistes aux côtés de ses compagnons jusqu'à la mort. Pourquoi est-ce qu'ils se sont précipités quand ils ont vu des oiseaux arriver? Car ils savaient que les oiseaux rapaces, quand ils arrivaient, c'est qu'il y avait du sang dans cet endroit. Donc, si ces oiseaux rapaces sont arrivés, c'est qu'il y a du sang, c'est que forcément nos compagnons sont en danger et peut-être que leur sang est en train de couler. Donc avec cet indice, ils se sont précipités afin de porter secours à leurs compagnons et ils ont combattu à leur côté jusqu'à la mort. Amr ibn Umayya, quant à lui, fut fait prisonnier, informé qu'il appartenait à la tribu de Mudar, une tribu renommée. Amr lui trancha une touffe de cheveux à l'avant du crâne avant de le libérer. À la base, il était prévu qu'il l'exécute. Mais quand il lui a mentionné son appartenance à la tribu de Mudar, Amr a simplement fait une chose afin de l'humilier ou de le rabaisser. Puis il l'a laissé partir du fait qu'il faisait partie de cette tribu renommée. En raison, dit-on, d'un affranchissement dont devait s'acquitter sa mère. Certains disent qu'il a agi ainsi, il l'a libéré, car auparavant sa propre mère devait affranchir un esclave et ne l'a pas fait. Alors lui, pour expier cette faute de sa mère, a décidé de libérer cet homme parmi les compagnons. قال رحمه الله: ويرجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أن يظن أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال لقد قتلت قتلين لا أدينهما أي لا أدفعن فديتهما لأنه كان بين هذين الرجلين والنبي صلى الله عليه وسلم عهد فما كان ينبغي أن يقتلوا. Ibn Kathir rahimahullah continue et dit: sur le chemin de son retour à Médine, ici nous sommes en train de parler de Umayya de Amr ibn Umayya Damri, celui qui a été libéré et dont on a coupé une mèche de cheveux. Sur le chemin de son retour à Médine, Al-Qarqara, c'est un endroit situé en amont du Qana, Amr ibn Umayya fit halte à l'ombre. Vinrent alors deux hommes des Bani Kilab. Ou selon certains des Bani Sulaym, qui s'endormirent au même endroit. Donc là, cet homme-là s'arrête dans un endroit et il voit deux parmi les koufars venir dans ce même endroit et s'endormir. Et il se dit, si je les tue pendant qu'ils dorment, ce sera une vengeance pour mes compagnons qui ont été exécutés. Persuadé qu'il vengerait ainsi ses compagnons, Amr ibn Umayya les tua par surprise, sans savoir que ces deux hommes bénéficiaient de la protection du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il y avait entre ces deux hommes et le prophète, alayhi salatu wa sallam, un pacte. Car des fois le prophète, alayhi salatu wa sallam, avait un pacte qui était conclu entre lui et une tierce personne. Et dans ce pacte, il est dit qu'il ne devait pas être tué. C'était le cas pour ces deux hommes. Mais Amr ibn Umayya ne le savait pas. Il pensait qu'il faisait partie des ennemis avec lesquels il n'y avait pas de pacte. C'est pour ça qu'il les a tués. À partir de là, il a fallu payer la fidya, la rançon, afin de racheter cette faute. De retour à Médine, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son geste. Celui-ci lui dit alors, tu as tué deux hommes dont je paierai assurément le prix du sang. Ces événements furent la vraie cause de l'expédition contre les Banu al-Nadir. Fakana hadha sababa ghazwati Bani al-Nadir, hadha sahih. Et l'expédition de Banu al-Nadir, Banu al-Nadir, c'est le nom d'une tribu juive parmi celles qui vivaient à Médine. Il y avait comme tribu juive à Médine Banu Qaynuqa', on en a parlé il n'y a pas longtemps. Le prophète alayhi salatu wassalam est allé se venger d'eux, si on peut le dire comme ça, car ils l'ont trahi. Deuxièmement, Banu Nadir, c'est la tribu que le prophète sallallahu alayhi wasallam va aller voir dans le prochain chapitre afin de se venger d'une grande trahison qu'ils ont voulu faire au prophète alayhi salatu wassalam. Et la troisième, Banu Qurayza. Et on va aussi le voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se venger d'eux. Donc, cette bataille ou cette grande perte va être la cause de la bataille contre les juifs de Banu Nadir. Vous verrez pourquoi, Insha'Allahu ta'ala. Ibn Kathir a dit, « Waza'ama az-Zuhriyu » أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر وليس ذلك كما قال بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وأما بني النضير فبعد أحد كما أن قريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية وغزوة الروم وعام تبوك بعد فتح مكة وأمر عليه السلام عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. Ibn Kathir rahimahullah va terminer ce chapitre en disant, quant à Zuhri, Zuhri est un grand imam de la Sunna. Il prétend que cette expédition, celle des Banu Nadir, que nous allons voir inshallah incessamment sous peu, il prétend que cette expédition suivit la bataille de Badr de 6 mois. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, l'expédition qui se déroula 6 mois après Badr est celle dirigée contre les Banu Qaynuqa'. Et c'est celle que nous avons vue dans un chapitre précédent. Quant à l'expédition contre les Banu Nadir, c'est celle que nous allons voir, Inch'Allah, elle fut lancée après la bataille de Uhud. De même, l'expédition dirigée contre les Bani Qurayza eut lieu après l'expédition de la tranchée. Et celle lancée contre Khaybar se déroula après Hudaybiyah. Enfin, l'expédition contre les Byzantins celle dite de Tabouk, eut lieu après la conquête de la Mecque. Puis, lorsqu'il fut à l'agonie, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna aux musulmans de chasser les juifs et les chrétiens de toute la péninsule arabique. Pourquoi ? En raison du mal dont ils sont porteurs, qui est la croyance erronée avant tout. Deuxièmement, la rupture des pactes. Ils ne respectaient pas leurs engagements. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu d'eux qu'ils ne respectaient pas leurs engagements, il a eu un regard loin ou lointain et il s'est dit qu'il est meilleur de les éloigner de la péninsule arabique afin que les musulmans soient préservés de leurs nuisances. Et c'est ainsi que s'achève la lecture de ce chapitre concernant le puits de Maouna. قال رحمه الله تعالى فصل ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهما وبينهم من الحلف فقالوا نعم. Nous allons voir quelle est la cause de cette expédition contre les Juifs de Banu Nadir. C'est une tribu qui vit à Médine et qui s'est mis d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vivre dans la paix, de ne pas attaquer ni combattre les musulmans, de ne pas aider les ennemis de musulmans dans le cas où ces ennemis voudraient venir attaquer les musulmans. Ibn Kathir a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit lui-même chez les Bani Nadir en leur demandant de l'aider à payer le prix du sang des deux hommes tués par Amr ibn Umayya, compte tenu de l'alliance qui existait entre lui et les Bani Nadir. Il y avait une alliance entre cet homme et les Bani Nadir. Et donc le prophète alayhi salatu wasalam est allé les voir pour leur dire, cet homme avec lequel vous êtes alliés a tué des gens avec lesquels on avait un pacte. C'est pourquoi on doit payer le prix du sang. Puisque vous vous étiez allié avec lui, il faut aider dans ce paiement du prix du sang. Et les Juifs de Banu Nadir n'ont pas refusé en apparence, bien sûr. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, ces derniers acceptèrent. Ils ont dit na'am. Ils n'ont montré aucune opposition. Ces derniers acceptèrent. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي هذا الرحى صخرة عظيمة على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتله فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما هم به أي أوحى الله إليه فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناهى دون المدينة وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive et dit à ses juifs, aidez-nous à payer le prix du sang. Ils disent oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'asseoir dans un endroit et qu'est-ce qui se passe? Ibn Kathir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'Abu Bakr, Omar, Ali et d'autres compagnons, s'assit devant l'un de leurs murs. Les juifs se réunirent alors et se dirent entre eux, qui est capable de tuer Mohammed en jetant cette meule sur lui? C'était un énorme rocher. Ils se sont dit, c'est l'occasion rêvée. Mohammed, alayhi salatu wasalam, est devant nous. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de combat. Il est assis au pied de ce mur. On n'a qu'à venir du haut de ce mur, lui lancer sur la tête. Il est mort. Et on est heureux. Et on est satisfait. Car malgré le fait qu'ils vivaient avec lui et qu'ils avaient accepté de respecter entre en apparence les clauses du contrat qu'il y avait, en vérité, il ne voulait qu'une chose, c'était la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, et la mort de la sunna, et l'effacement de l'islam, dont ils sont les ennemis les plus farouches. Donc, ils se sont dit entre eux, qui est capable de tuer Mohammed en jetant cette meule sur lui? Et il est même dit que un parmi eux leur a dit, ne le faites pas, il reçoit une révélation. Et si vous voulez le faire, il va recevoir une révélation lui informant que vous voulez le tuer. Et ça risque de se retourner contre vous. Et subhanallah, on voit bien que Al-Yahoud, arafu al-haq, wa lam yattabi'u. Les Juifs connaissent la vérité mais ne la suivent pas. Subhanallah. Se proposa alors Amr ibn Jahash, qu'Allah le maudisse. Mais Allah informa son messager de leurs intentions. Il se leva aussitôt. Dès que le prophète, alayhi salatu wassalam, a su que ces gens-là ont voulu le trahir et l'assassiner, il s'est immédiatement levé, quitta ses compagnons et ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint Médine. Il s'est levé, il a marché tout droit jusqu'à Médine. Pourquoi ? Pour prendre la fuite ? Non. Pour aller chercher ses compagnons, revenir à Bani Nadir et se venger d'eux. Et donc, puis vint un homme qui assura avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrer dans Médine. Abu Bakr et ceux qui étaient avec lui se levèrent alors et le suivirent. Les compagnons sont arrivés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informa ensuite ses compagnons de ce qu'Allah lui avait révélé des intentions des Juifs. En effet, Allah azza wa jal lui a fait une révélation et il y a même une sourate qui a été surnommée Suratu Bani Nadir, la sourate des Bani Nadir, Suratu al-Hashr, Suratu l'Exode. Et dans les deux premières pages de cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de ce qui s'est passé, de ce que les Juifs ont voulu faire et de la vengeance que leur a infligé Allah azza wa jal avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appela donc les musulmans à les attaquer. قال رحمه الله فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود وندب الناس إلى قتالهم فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول وهو في العام الرابع من الهجرة فحاصرهم ست ليال منه. ابن كثير رحمه الله دي avant de quitter Médine au mois de Rabi' al-Awwal, donc on sait que cela a eu lieu au cours de ce mois, Rabi' al-Awwal, en l'an 4 de l'Hégire. Il y désigna Ibn Ummi Maktoum pour diriger les affaires des musulmans en son absence. Car comme on l'a vu plusieurs fois, chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam quitte Médine pour une expédition militaire, il désigne un responsable des musulmans qui, eux, restent à Médine. Les musulmans firent le siège des Bani Nadir pendant 6 jours. Donc les musulmans sont arrivés dans les endroits habités par cette tribu de Bani Nadir et ont assiégé les habitations de ces gens et cela a duré 6 jours. Et pendant ces 6 jours, les Bani Nadir ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas quitter leur citadelle car ils avaient peur des représailles des musulmans. Et d'ailleurs, quand ils se sont mutuellement consultés, ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute façon allait avoir la main sur eux et allait gagner. Ils se sont dit, autant que l'on détruise nos maisons de l'intérieur. Et ils se sont mis alors à détruire leurs propres habitations de l'intérieur. Pourquoi ? Ils se sont dit, de toute façon on a perdu, on est voué à quitter nos habitations. Et eux vont les prendre autant qu'on les détruise. Ils ont détruit leur maison de l'intérieur et de l'extérieur, les sahaba détruisaient aussi leur maison. Et c'est de ça qu'Allah Azza wa Jal parle dans Surat Al-Hashr, l'Exode, lorsqu'il dit « Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin » ils détruisaient leurs maisons avec leurs mains et celles des croyants. Avec leurs mains, c'est-à-dire quand de l'intérieur, ils cassaient leurs maisons. Et celles des croyants, c'est-à-dire quand de l'extérieur, les croyants détruisaient leurs maisons. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Puis Allah Azza wa Jalla dit, tirez donc des leçons où vous les douez de clairvoyance. طيب. قال رحمه الله وحينئذ حرمت الخمر كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. Il dit, c'est à ce moment-là que fut interdit l'alcool, assure Ibn Hazm. Lui seul, à ma connaissance, affirme ceci. Donc, Ibn Kathir, rahimallah, dit qu'il n'a pas vu autre que le savant Ibn Hazm avoir dit que l'alcool a été interdit à ce moment-là précisément. Qala rahimahullah, wa dassa Abdullah ابن أبي ابن سلول وهو رأس المنافقين وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير قال أنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في أطامهم فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك. ابن كثير جي عبد الله ابن أبي ابن سلول. Cet homme-là, c'est la tête des hypocrites de Médine. Décidément, cet homme-là est présent à chaque fois qu'il y a un problème. Non seulement il est présent, mais il envenime le mal. Abdullah ibn Ubay ibn Salul et ses compagnons parmi les hypocrites, ce sont donc des mécréants, mais qui se font passer pour des musulmans, se rendirent alors secrètement auprès des Banu Nadir, en les informant qu'ils étaient avec eux et combattraient à leur côté. Ils sont rentrés dans les citadelles des Juifs et leur ont dit, nous sommes vos frères, nous sommes avec vous. Et si Mohammed vous demande de quitter vos demeures et d'aller vivre ailleurs, alors ne répondez pas favorablement à sa demande. Désobéissez-lui, restez chez vous, défendez-vous, battez-vous s'il le faut, on sera à vos côtés. Allah Azza wa Jalla les a démasqués dans Surat Al-Hashr en disant, أَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا. N'as-tu pas vu ceux qui ont été hypocrites, en parlant de cet homme-là et de ses suiveurs. أَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا. La suite du verset. يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Qui disent à leurs frères qui ont mécru parmi les gens du livre, ici Allah parle des juifs de Banu Nadir. La in qutiltum. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire, n'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes, et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux, et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas, et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement leur dos, puis ils ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah, c'est-à-dire ils ont plus peur de vous qu'Allah. Azza wa Jal. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Subhanallah. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal les a bien démasqués. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses compagnons parmi les hypocrites se rendirent alors secrètement auprès des Bani Nadir en les informant qu'ils étaient avec eux et combattraient à leur côté. Ils ajoutèrent que si les Bani Nadir étaient contraints à l'exil, ils les accompagneraient. Et chose qu'Allah Azza wa Jalla a réfutée et démentie dans ce verset. Trompés par ces fausses promesses, les Bani Nadir se réfugièrent dans leur forteresse. Ils se sont donc réfugiés dans leur forteresse, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la suite du verset. Dans la suite du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Allah Azza wa Jalla lui dit: tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. C'est-à-dire que s'ils sont amenés ou poussés à vous combattre, ils ne le feront que derrière des murs protégés. Pourquoi? Car ces gens-là sont lâches, ils ne sont pas courageux. Depuis les premiers temps jusqu'à l'instant où je vous parle. Et vous et moi savons ce qui se passe entre cette communauté et la nôtre. Et vous voyez combien ils sont lâches. Ils ne combattent pas courageusement en faisant du face à face. Comme Allah Azza wa Jalla le dit ici. Puis Allah dit: leur dissension interne sont extrêmes. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Et ici, c'est une sorte de consolation pour les musulmans, même si ils sont opprimés à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Ils ne doivent pas croire que ces gens-là, ces oppresseurs, sont unis. Ils sont en train de se manger de l'intérieur. Et ils savent que ce n'est qu'une question de temps. Et viendra un jour où ils seront voués à l'échec et à la défaite. Mais cela n'aura lieu que quand les musulmans reviendront à la bonne croyance et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, comme l'a dit le grand savant Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahu wa hafidhahu Allah ta'ala, il dit à ces gens-là, car il leur a adressé une lettre, il leur dit: ne croyez pas que vous avez vaincu l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la plupart des gens que vous combattez ont une croyance erronée et ne suivent pas la sunna. Mais quand les gens suivent la sunna et ont une croyance correcte, ils sont invaincus par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on continue. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de couper leurs palmiers et d'y mettre le feu. Ils demandèrent alors au prophète de les exiler et d'épargner leur vie. Donc quand ils ont vu que les compagnons commençaient à découper les palmiers qui appartenaient à ces gens-là, dans le but de saccager leurs biens, ils se sont dit: autant que l'on se mette d'accord avec eux, on va leur demander tout simplement de nous laisser quitter nos demeures et d'aller vivre autre part, au moins on aura préservé nos vies et nos personnes. Ils réclamèrent l'autorisation d'emporter tout ce que leurs chameaux pouvaient transporter, à l'exception de leurs armes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accéda à leur requête. Le prophète alayhi salatu wa sallam a accepté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Banu Nadir étaient retranchés dans leur citadelle. Et les compagnons se sont mis à découper leurs palmiers. Et certains pourraient se dire: mais c'est vraiment du gâchis qu'ils sont en train de faire. Alors que le gâchis en islam est formellement interdit. Il saccage des biens dont il pourrait tirer les profits. Allah Azza wa Jal, dès que ces gens-là ont commencé à parler comme cela, a révélé un verset pour dire « Ma qata'atum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi idhnillah » Allah Azza wa Jal a immédiatement répondu à ces gens-là en leur disant que c'est par l'ordre d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont détruit, c'est par l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'ils ont détruit ces palmiers. Et le but à travers cette destruction était de semer la terreur dans le cœur de l'ennemi. De semer la terreur dans le cœur de l'ennemi. Allah Azza wa Jal leur a dit, il dit plutôt au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire, tout palmier que vous avez coupé, tout ça c'est toujours dans la même sourate, tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah. Et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de découper les palmiers de ces gens-là afin de semer la terreur et de les humilier, car eux ont voulu faire bien pire que ça. Ils ont voulu lancer un rocher sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi eux auraient le droit de lancer un rocher, d'assassiner le messager d'Allah, et les compagnons n'auraient pas le droit, pour leur infliger cette vengeance et cette perte, de couper leur palmier? D'autant plus que cela est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam a accepté leur demande et leur a dit: quittez la ville de Médine et n'y vivez plus. Prenez vos chameaux et tout ce que vous pouvez mettre sur ces chameaux, prenez-le avec vous. Mais les armes, laissez-les. Ils sont donc partis. Ils sont donc quittés la ville de Médine et ils ont laissé leurs armes. Et comme on va le voir, ils ont été s'installer dans plusieurs endroits. قال رحمه الله فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم وذهبت طائفة منهم إلى الشام. ابن كثير dit: les notables parmi eux, à l'image de Huyay ibn Akhtab et Salam ibn Abi Huqayq, s'exilèrent à Khaybar, dont les habitants se soumirent à eux avec femmes, enfants et biens, alors qu'une partie de la tribu s'installa au Sham. Donc les Banu Nadir ont été exilés. Ils ont quitté la ville de Médine et ils se sont divisés en deux. Certains sont allés vivre dans la région du Sham, où il y a la Syrie, Liban, une partie de la Palestine, et d'autres sont allés vivre à Khaybar, et qui plus tard va être aussi attaqué par les musulmans et qui va être un des plus grands butins que les musulmans ont gagné. قال رحمه الله ولم يسلم منهم إلا رجلان وهما أبو سعد ابن وهب ويامين ابن عمير ابن كعب وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرز أموالهما وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين والأولين خاصة إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: seuls deux juifs des Banu Nadir embrassèrent l'islam, et c'était pour eux la meilleure chose, car en embrassant l'islam ils pouvaient rester, et ils étaient non seulement dans la fierté de l'islam, et ils étaient bien installés dans leur maison sans qu'on leur porte atteinte. Seuls deux juifs des Banu Nadir embrassèrent l'islam, qui sont Abu Sa'd ibn Wahb et Yamin ibn Umar ibn Ka'b. Ce dernier avait promis une récompense à celui qui tuerait son cousin Amr ibn Jihash, coupable d'avoir voulu assassiner traîtreusement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à leur conversion, Abu Sa'd et Yamin préservèrent leurs biens. Quant aux richesses du reste des Banu Nadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les distribua exclusivement aux premiers émigrés de la Mecque. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam a récupéré les richesses laissées par la tribu des Banu Nadir. Cette richesse, on l'appelle comment? Comment est-ce qu'on l'appelle en arabe? Al-Ghanima. Là. Il y a une différence. Al-Ghanima, c'est le butin que l'on prend de l'ennemi après la bataille contre lui. Ça s'appelle Al-Fay. Al-Fay, c'est le butin que l'on prend de l'ennemi sans combat. C'est-à-dire que les musulmans arrivent, si on peut le dire comme cela, ils infligent une claque à l'ennemi sans combattre, l'ennemi quitte l'endroit où il est, et les musulmans prennent leurs biens. C'est un butin gagné sans combat, en arabe on appelle ça Al-Fay. Il y a une différence dans les règles religieuses, dans le partage du butin, dit de l'ranima et de celui dit de Al-Fay. Al-Ranima, le butin Al-Ranima, il a ses règles qui sont citées dans Suratu At-Tawbah, et on en a vu certains versets lors de la bataille de Badr. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. Quant au Al-Fay, ce que prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ennemi, il a le droit de le partager comme il veut. Il n'y a pas de règle de partage. Il le partage comme il le veut, sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a décidé de le distribuer exclusivement aux premiers émigrés de la Mecque, car il faisait partie des plus pauvres parmi les compagnons et des premiers à avoir embrassé l'islam et soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul parmi les Ansar n'en bénéficia, à l'exception de Sahl ibn Hunayf et Abu Dujana, en raison de leur pauvreté. C'est-à-dire que ces deux hommes-là étaient tellement pauvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exception et leur a donné de ce fay, de ce butin. وَقَدْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَلَمْ يُوجِفْ المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر. وقد كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. Et donc Ibn Kathir rahimahullah termine ce chapitre et dit: ces biens entraient dans la catégorie des butins accordés par Allah à son messager sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'obtenu sans combat. Au sujet de cette expédition, Allah azza wa jal fit descendre la surat al-Hashr que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma surnommait d'ailleurs la surah des Banu al-Nadir. Et donc c'est ainsi que l'histoire de Banu al-Nadir s'achève. Ibn Kathir rahimahullah dit: faslun, وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة. Il dit: le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait passé un mois complet au cours de la prière de l'aube à invoquer Allah contre ceux qui avaient assassiné ses compagnons au puits de Ma'ouna. Et c'est donc une sunna qu'on appelle Qunut al-Nazila. Le Qunut, c'est lorsque l'imam lève les mains après ou avant le ruku' dans la prière pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, comme celui qui est fait pendant la prière du Tarawih. Il y a un Qunut qui s'appelle Qunut al-Nazila. C'est le Qunut de la calamité ou du malheur, le malheur qui s'est abattu sur les musulmans. Il consiste à ce que l'imam lève ses mains à chaque prière, invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il accorde une issue aux musulmans suite à cette calamité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant un mois, et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, et il a invoqué pendant un mois après chaque prière en levant les mains, et les compagnons derrière avec les mains levées. Ici on nous dit après l'aube, mais dans d'autres hadiths on voit que c'est après chaque prière, les mains levées en demandant à Allah Azza wa Jal de maudire ces trois tribus qui ont défié la protection de Abu Bara, ces trois tribus qui étaient Usayya, Ri'l et Dhakwan. Et pendant un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal contre eux. On s'arrête ici inshallah et on reprend la semaine prochaine. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك